Bonjour à tous. Je vous propose une lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens, premier chapitre. Colossiens, chapitre 1. Colossiens chapitre 1, nous entamons ce matin une nouvelle série de prédications basée sur l'épître de Paul aux Colossiens. Ça va nous conduire tous les 15 jours jusqu'à la fin de l'année, grosso modo. Et l'épître de Paul aux Colossiens fait partie des 13 lettres ou 13 épîtres que nous avons de sa plume dans notre Nouveau Testament. Nous savons que Paul n'a pas écrit que 13 épîtres, mais nous n'avons que 13 dans notre Nouveau Testament. Sur le plan chronologique, l'épître aux Colossiens, c'est la 8e sur 13 que Paul a écrit. Et sur le plan biblique, c'est la 7e que nous avons dans le Nouveau Testament. Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, numéro 7. Paul n'a pas fondé l'église à Colosse, qui se trouvait en Asie mineure, en Turquie aujourd'hui, mais il n'avait même pas mis les pieds dans la ville de Colosse. Mais il connaissait l'Église en partie grâce à un certain Épaphras. Je propose donc la lecture, Colossiens, chapitre 1, versets 1 à 11, avec le titre « Prions les uns pour les autres, numéro 1 ». Chapitre 1, verset 1. « Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, au saint, et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ. Et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Nous arrêtons la lecture ici. Paul a écrit cette lettre aux Colossiens en partie parce qu'il savait que l'Église était en danger. Paul savait qu'il y avait des dangers à l'intérieur de l'Église et des dangers à l'extérieur de l'Église. Paul savait qu'il y avait des gens qui troublaient leur Église, cette Église à cause de leur croyance ou alors à cause de leur comportement. Et Paul savait que la croyance de quelqu'un déterminait le comportement de la personne. Et j'espère que vous êtes aussi au courant de cela. Ce que nous croyons va déterminer notre comportement. Et notre comportement est souvent inspiré par ce que nous croyons. Que nous soyons athées, que nous soyons hindous, que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens. Il y a un lien direct entre la croyance et le comportement. Et c'était un problème dans l'église des Colossiens. Et on en parlera dans les semaines à venir. Ce matin, j'aimerais me concentrer sur la prière de Paul dans ce premier chapitre. Et s'il y a des titres « Prions les uns pour les autres » numéro 1, c'est parce que dans quelques semaines, il y aura un message « Prions les uns pour les autres » numéro 2. Vous avez tout compris. C'est formidable. Alors, après une brève introduction et présentation de la part de Paul au verset 1 et 2, il explique à deux reprises « Je prie pour vous sans cesse ». Verset 3, il le dit, et verset 9, il le dit. Donc ce ne sont pas des paroles vaines de la part de Paul. Sans cesse, sans s'arrêter, il priait pour les Colossiens. Et il dit au verset 3, « Je prie pour vous avec reconnaissance ». Et au verset 9, il dit, « Je prie pour vous avec requête. J'ai des demandes que j'expose devant le Seigneur dans la prière. » Et ici, nous avons bien sûr deux aspects fondamentaux de la prière. Quand vous priez, n'oubliez pas de demander des choses, mais quand vous priez, n'oubliez surtout pas de remercier Dieu pour des choses. C'est comme les petits mots magiques qu'on enseigne à nos enfants quand ils sont petits. Merci. S'il te plaît. Et quand on prie le Seigneur, on ne doit pas oublier le merci. Et on ne doit pas oublier le s'il te plaît. Ou si on veut, selon ta volonté. Mais on va y revenir. Alors, vous avez remarqué à qui Paul adresse ses prières au verset 3. Je prie la Vierge sans cesse à... Non, attendez. Non. Il ne dit pas, je m'adresse à Sainte Thérèse, ou à Saint François d'Assise, ou à un saint quelconque. Je m'adresse à Dieu le Père. Nulle part dans la Bible, il est question de prier une sainte, un saint, un personnage quelconque. Et quand les disciples demandaient à Jésus, dis-nous comment prier. Luc 11, enseignez-nous comment prier. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. On s'adresse au Père, on s'adresse au Fils, on s'adresse au Père au nom du Fils. Donc, il s'adresse au Père. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? D'abord, il remercie le Seigneur pour des choses. Peut-être qu'il faut le faire manuellement. Ah, voilà. Paul remercie Dieu pour la foi des Colossiens. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ. C'est la foi qui sauve, dit-on. C'est vrai ou c'est faux? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est la foi qui sauve. Oui, mais ça dépend. Notre foi est en qui? Ou notre foi est en quoi? Eh bien, pour eux, la foi était dans le Seigneur Jésus-Christ. Votre foi en Christ Jésus. Paul dit, j'ai entendu parler de votre foi. D'ailleurs, au verset 2, il s'adresse aux chrétiens et dit, vous êtes des fidèles frères. Le mot fidèle, bien sûr, est par rapport à leur foi. Ils avaient la foi, ces chrétiens-là. Ils étaient caractérisés par la fidélité envers Dieu, par la fidélité envers Christ, par la fidélité, je dirais, même envers leur Église et envers leurs frères et leurs sœurs. Foi, fidélité. Paul dit, j'ai entendu parler de votre foi sans vous avoir rencontré. Je me demande, mais qui a entendu parler de ma foi sans m'avoir rencontré? Est-ce que mes voisins connaissent ma foi? Est-ce qu'ils savent que j'ai la foi? Est-ce que vos voisins, votre famille, est-ce qu'ils savent que vous avez la foi? Comment peuvent-ils savoir? Paul savait que ces chrétiens avaient la foi. Cela se voyait et cela s'entendait. Et moi, je me dis, mais je dois prier, Seigneur, permets que des gens, même qui me connaissent à peine, qu'ils puissent voir que j'ai foi, que j'ai confiance en toi. Et je vous propose de demander la même chose. Que vous puissiez prier, Seigneur, permets que d'autres personnes puissent savoir que j'ai la foi, mais la foi en toi. Et je vous propose aussi de remercier le Seigneur pour les frères et sœurs de notre Église qui ont la foi, qui sont fidèles, qui sont fidèles dans leur engagement, dans leur famille, dans leur boulot, dans leur église, qui sont fidèles envers Jésus-Christ. Remercions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont fidèles et qui ont la foi. Paul l'a fait, et si Paul l'a fait, je pense que nous, on doit aussi faire de même. Le deuxième sujet de reconnaissance dans cette prière de Paul, il remercie le Seigneur pour l'amour des chrétiens. Verset 3, ou plutôt verset 4, « L'amour que vous avez pour tous les saints, ils aimaient tous les chrétiens. » Des chrétiens qui aiment tous les chrétiens, c'est quand même formidable. Paul a entendu parler de la foi, il avait aussi entendu parler de leur amour. Qu'est-ce qui est plus important, la foi ou l'amour? Je pourrais vous demander, levez la main, je ne vais pas le faire, hein. Levez la main si vous croyez que la foi est plus importante que l'amour. Et je pourrais vous demander, et je ne le fais pas, levez la main si vous croyez que l'amour est plus important que la foi. Est-ce qu'il s'agit d'une question piège? Alors, on peut dire, j'ai la foi, je peux déplacer des montagnes. Mais Paul dit, si j'ai la foi et si je n'ai pas l'amour, je ne vaux R-I-E-N. Ça veut dire niette, rien. Donc la foi sans amour, ça ne sert à rien. On peut dire, ah mais Dieu est amour. Ah j'aime. Ah il faut que l'amour convainque le monde qu'on est tous frères et sœurs du même Père. Il y en a qui prêchent, qui chantent ce message. Mais si on parle de l'amour sans parler de la foi en Jésus-Christ, eh bien ça ne vaut rien non plus. La foi et l'amour doivent toujours aller ensemble. Et dans un autre contexte, Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La foi et l'amour vont ensemble. Et eux, ils avaient la foi, eux, ils avaient l'amour. Et ils pourraient dire avec ce que Paul dit dans Romains 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu a envahi notre cœur. Et pour reprendre un vieux tube de Jude 25, il chante « Son grand amour a rempli tout notre cœur ». Alors, l'amour de Dieu était dans leur cœur et c'est l'amour qui les a animés. Je me demande ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce qui nous inspire ce matin. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui sont animés par l'amertume. Et ça se voit. Il y a d'autres chrétiens qui sont animés par la jalousie. Jaloux des uns des autres. Et ça se voit. Il y a d'autres qui sont animés, motivés par l'orgueil. Je suis le meilleur. Je suis le best. Et ça se voit. Ces chrétiens-là étaient animés, motivés par l'amour. Encore une question. Qu'est-ce qui vous inspire, les amis? Qu'est-ce qui vous fait marcher? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui a rempli votre cœur? De façon naturelle, par nature, c'est faux, même quand on est chrétien. Nous avons besoin de prier, Seigneur, que ton amour me motive, me stimule, m'anime, que ton amour puisse m'aider à aimer, pas seulement mes frères et sœurs, mais les gens que je dois côtoyer et qui ne sont pas très aimables. Aide-moi, Seigneur, à les aimer aussi avec ton amour. Et si ces chrétiens ont pu aimer les non-chrétiens et les frères et sœurs, c'est parce qu'ils avaient cru au Seigneur Jésus. Verset 5, ils avaient reçu cette espérance de la vie éternelle. Autrement dit, l'évangile a été annoncé à Colosse. Ces gens-là ont cru à l'évangile. L'évangile a porté des fruits. Et ces gens-là, ils avaient eu une vie transformée. Et Paul continue à dire, mais cet évangile va de progrès en progrès partout dans le monde entier. Et c'était vrai au premier siècle, le monde était beaucoup plus petit à ce moment-là. Mais c'est aussi vrai aujourd'hui, à notre époque. L'évangile porte des fruits et progresse. Même si à la télé, on ne voit jamais, je peux vous dire, en cliquant sur certains sites de mission et de missionnaires, on constate que des choses se passent, que des gens se convertissent. Et c'est formidable de savoir que l'Évangile, même si à Lyon, même si en France, même si en Europe, ça ne semble pas progresser, dans certains pays, ça va de plus en plus fort, de mieux en mieux. Pas plus tard que cette semaine, j'ai appris que ce livre, un livre qui s'appelle « Connaître et faire », vous voyez, « Connaître et faire », et le sous-titre « Croyance et pratique chrétienne ». Croyance et pratique, croyance et comportement. Eh bien, ce livre a été écrit il y a 5 ans par un Irlandais. Il a été traduit déjà depuis 5 ans en 30 ou 35 langues. Et la semaine dernière, j'ai appris qu'il venait d'être traduit dans la langue Tonga, au Zimbabwe. Au Zimbabwe, il y a le Shona, il y a le Tonga. Et c'est le premier livre chrétien traduit en langue Tonga. Faire et connaître, ou connaître et faire. L'Évangile progresse. On ne verra pas ça à la télé, mais le fait de savoir que les millions de personnes qui parlent de Tonga, ils ont enfin un livre chrétien dans leur langue. L'Évangile progresse. Donc pour revenir à nos oignons, ou pour revenir à nos chrétiens colossiens, eh bien, ils avaient la foi en Christ, ils étaient caractérisés par la fidélité envers le Seigneur, et ils aimaient les frères et sœurs, et on peut conclure qu'ils aimaient aussi ceux qui n'étaient pas encore convertis. Et tout ceci grâce au message de l'Évangile. Il y a 10 jours, un cher ami est décédé. Il avait 75 ans. C'était un de mes amis, un modèle pour moi de foi et d'amour. Il s'appelait Bill. Il était né dans un quartier très chaud, dans l'Est, dans la banlieue Est de la ville de Glasgow, en Écosse. Il était voyou. Il s'est converti miraculeusement. J'ai dit ça, mais toute conversion est un miracle. Il s'est converti miraculeusement. Il a changé de vie. Il ne savait ni lire ni écrire. Il est venu en France pour apprendre le français. Il est parti au Congo belge. Il est devenu infirmier. Au Congo belge, dans les années 60-70, il a eu un accident de voiture. Il était rapatrié pour se faire opérer de son bras qui est resté handicapé toute sa vie. Pendant qu'il sortait de l'hôpital en Écosse, des rebelles au Congo belge ont attaqué son village. Ils ont tué tous les chrétiens, violé les femmes et tué tous ses missionnaires, ses collègues missionnaires. Si lui, il n'avait pas eu cet accident de voiture, il y serait passé. En Écosse, il se rattrape, il devient missionnaire auprès des militaires, auprès des sous-mariniers. Et à côté de notre église où j'étais à l'époque, quand j'étais étudiant, il y avait une grande base militaire, toujours d'ailleurs, et cet homme, Bill, fréquentait notre église et il évangélisait les sous-mariniers. Et là-bas, des sous-mariniers se convertissaient. Les petits et même les grands officiers, se convertissaient. Il les amenait à l'église. Et puis, avec son association, ils ont pu acheter une maison, une grande maison d'accueil pour recevoir le sous-marinier à toute heure. C'était un homme qui avait la foi, un homme qui était fidèle et un homme qui aimait tous ceux qu'il côtoyait. Son association, la présidente d'honneur de son association, tenez-vous bien, c'était la reine Élisabeth. Il avait l'habitude de côtoyer des membres de la famille royale, de leur parler de l'Évangile. Et un jour, notre groupe de jeunes devait aller faire de la peinture de toutes les boiseries extérieures de sa grande maison. Et ce jour-là, chose rare pour l'Écosse, le météo avait prévu la pluie. Une pluie diluvienne, disait le météo. Est-ce qu'on croit à la météo? Eh bien, il a dit, on n'annule pas votre visite, venez et on va prier. Et on est allé. Et ce jour-là, je n'exagère pas, il pleuvait partout autour et au-dessus de son village, pas de pluie. Des nuages, on ne peut pas vivre en Écosse sans nuages noirs, mais pas de pluie. Et il a dit, mais nous avons prié. Et il parle de cet épisode dans son autobiographie. En tout cas, tout ça pour dire que cet homme est décédé. Mais pour moi, je me dis, mais c'est un homme qui était fidèle, qui avait une vraie foi, et qui rayonnait l'amour du Christ. Et même s'il avait rencontré la reine à plusieurs reprises, aujourd'hui, il est dans la présence de qui? du roi des rois. La foi et l'amour. Continuons. Paul remercie le Seigneur pour ses chrétiens. D'ailleurs, j'ai mis ça. Il y a deux pièces de théâtre au cinéma, au théâtre ce jour-là. Une qui parle d'une vérité qui dérange, c'est-à-dire quelqu'un qui prêche l'Évangile, et une qui parle d'un mensonge qui rassure. Tout va bien. Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Et le monde va où? Il préfère le mensonge qui rassure que la vérité qui dérange. Ces Colossiens, ils ont préféré la vérité qui dérange. Vous êtes pécheurs. Vous allez mourir dans vos péchés. Vous allez mourir avec vos péchés. Convertissez-vous. Sinon, j'ai failli dire le verset 10. Non. Sinon, c'est la mort. Ils ont cru à la vérité qui dérange, la bonne nouvelle. Et j'espère que vous avez tous cru à cette vérité, à la vérité. Paul prie, et il prie tout simplement, verset 9, que les chrétiens puissent avoir connaissance de la volonté de Dieu. On a toujours besoin de savoir ce que Dieu veut pour nous. Pas seulement à la rentrée, pas seulement lors d'une crise, mais à tout moment, on doit chercher, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ils priaient qu'ils connaissent la volonté de Dieu, et je pense que ça sous-entendu qu'ils acceptent la volonté de Dieu. Et j'ai déjà dit ici que c'est une chose de savoir ce que Dieu veut que je fasse, mais c'est autre chose que j'accepte que Dieu veut ça pour ma vie. Et je peux vous dire qu'un chrétien qui est râleur, critique, triste et agressif est très souvent un chrétien qui soit refuse d'accepter la volonté de Dieu pour lui, soit c'est un chrétien qui vit carrément dans la désobéissance à ce que Dieu veut. Et je peux vous dire que j'en ai parlé avec plein de chrétiens qui sont malheureux comme tout. Et quand on creuse, on se rend compte, ils savent ce que Dieu veut dans cet aspect-là de leur vie, et ils ne le veulent pas. Ils connaissent la volonté, mais ils ne l'acceptent pas. Eh bien, nous devons prier, Seigneur, montre-moi ta volonté, et aide-moi aussi à accepter ta volonté. Certains chrétiens qui veulent vivre dans la désobéissance, au lieu de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, ils prient plutôt, Seigneur, que ta volonté soit différente. Que ta volonté soit meilleure. Que ta volonté soit changée. Je propose qu'il s'agit d'un blasphème dont nous devons nous repentir. Ces chrétiens-là ne pourront jamais chanter le cantique Abba Père où on chante « Que ma volonté se plie à la tienne constamment ». Nous devons chanter ou prier, Seigneur, que ma volonté aujourd'hui, demain, se plie à ta volonté, que je connaisse et que j'accepte ta volonté. D'ailleurs, il est question ici d'être rempli de la volonté de Dieu ou de la connaissance de la volonté de Dieu. Ce mot rempli signifie littéralement être dominé par la volonté de Dieu. Dominé par la volonté de Dieu, animé par l'amour de Dieu. Vous savez, ça c'est la vie chrétienne normale. Être dominé. Seigneur, que veux-tu? Et Seigneur, je veux être animé par ton amour. Certains savent qu'un de mes amis et un de mes collègues, Reynald Kosicki, est gravement malade depuis 3 semaines. Il y a 3 semaines, tout allait bien. Et puis, il y a 10 jours, il a été opéré d'une tumeur cancéreuse au cerveau. Et je l'ai eu encore ce matin par SMS, et il dit, mais on prie que la volonté de Dieu se fasse. Il commence la radiothérapie dans 10 jours, et quel est l'avenir? Mais il me dit, je suis en paix. Un homme de foi. Un homme animé par amour. Paul remercie le Seigneur, Paul prie le Seigneur, et pour terminer, Paul donne quelques ordres ou des impératifs. Il dit, marchez d'une manière digne du Seigneur, afin de plaire au Seigneur à tout point de vue. Ça alors, plaire à Dieu à 100%. Ça, c'est pas la vie des super chrétiens. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Chercher à plaire à Dieu à tout point de vue. Il dit, portez des fruits. Soyez caractérisés par l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la fidélité, etc., etc. Est-ce que nous portons des fruits? Jésus dit dans Jean 15, « En ceci est mon Père glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. » Portez des fruits. Troisième impératif, croissez dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire progresser dans notre connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'on a consacré quelques mois, il y a un an et demi, sur ce thème, « Qui est Dieu pour toi ?» Il ne s'agit pas de grossir, mais de grandir dans la connaissance de Dieu grâce à notre communion avec Dieu, grâce à notre relation avec Dieu, grâce à notre lecture de la parole de Dieu. Croître, grandir, progresser. Nous devons, au lieu de faire marche arrière ou de rétrograder, nous devons avancer. Avancer dans la connaissance de Dieu. J'ai appris l'autre jour que Christophe Colomb, quand il faisait son voyage, il allait découvrir les Amériques sans qu'il le sache, il avançait, il voyait que de la mer, que du bleu, et chaque jour, le soir, dans son journal personnel, il a écrit la petite phrase « Aujourd'hui, on a encore avancé ». Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il avançait. Et en tant que chrétien, nous devons marquer tous les soirs, « Seigneur, par ta grâce, aujourd'hui j'ai pu avancer un peu. » Autre chose, devenez puissant. Oh, c'est tout un ordre, mais c'est tout un programme. Mais il dit bien, devenez puissant par sa force glorieuse. En soi, on est faible. Grâce à Dieu, on peut devenir fort. Ouf. Soyez persévérants et patients. Cinq impératifs, cinq ordres qui s'appliquent aux Colossiens et qui s'appliquent à tout chrétien en 2015. Soyez persévérants et patients. Quelqu'un m'a dit une fois, David, on a besoin de la persévérance quand les circonstances sont pénibles. On a besoin de la patience quand les gens sont pénibles. Est-ce qu'on peut vraiment distinguer persévérance et patience? C'est encore deux cousines germaines qui vont toujours ensemble. Mais que nos circonstances, ou que les gens autour de nous, pas ce matin bien sûr, que les gens autour de nous soient pénibles, eh bien, prions que Dieu nous rende persévérants et patients. Et comme disait Spurgeon, le prédicateur anglais du 19e siècle, n'oubliez pas, mais c'est grâce à la persévérance et à la patience que les deux escargots sont arrivés à l'arche de Noé. Ils n'avaient pas tort. Loin de moi de nous comparer à des escargots. Prions les uns pour les autres, qu'on soit fidèles, qu'on soit marqués par une foi réelle, et qu'on ressemble à Épaphras qui était un fidèle ministre ou un serviteur fidèle de Jésus-Christ. Je conclue en disant que si nous marchons de manière à plaire à Dieu à tout point de vue, si nous cherchons à porter des fruits, si nous croissons dans la connaissance de Dieu, eh bien Dieu nous donnera la force, la persévérance et la patience. Dieu nous aidera à marcher chaque jour avec lui. Donc, plaire à Dieu, porter des fruits, grandir dans notre connaissance du Père, ça c'est tout un programme pour une rentrée bien remplie. Alors les amis, je vous souhaite une belle rentrée avec un beau programme. Prions. Seigneur, merci qu'à rien n'est impossible à ceux qui te font confiance. Et merci car rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Seigneur, tu vois là où nous sommes en défaillance, ou là où nous n'arrivons pas à obéir à ce que tu nous demandes, que ce soit la persévérance, l'amour, la foi, le progrès, la connaissance de Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs. Aide-nous à prendre des bonnes décisions, des bonnes initiatives à cette période de rentrée, afin que nous puissions grandir spirituellement, à tout point de vue. Aide-nous aussi, Seigneur, à prier pour nos frères et sœurs, mais aide-nous aussi à te remercier pour nos frères et sœurs. Parle à nos cœurs et agis là-dedans, nous te prions. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui a toujours été fidèle et qui a toujours montré ton amour. Amen.